Merci. Voilà, gloire à Dieu. Merci Sylvain. Alors épargné, oui, jusqu'à présent épargné par le virus. Eh bien, merci Seigneur, pour le moment ça va. Voilà, c'est pas la même chose pour Joël. Quand j'ai eu au téléphone, j'ai dit « Oh là là !» D'abord, quand j'ai vu sonner le téléphone, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il veut à cette heure-ci » Et puis, j'ai vite compris, à sa voix, au terme de sa voix, elle est double. Et au terme de sa voix, j'ai compris de suite eh bien que ça n'allait pas. Et il me dit « Ben voilà, j'arrive du congrès. » J'ai dit « Oui, je sais. » Et il me dit « puis j'ai attrapé donc certainement le virus. J'attends des résultats. Je me suis fait tester. » Et puis après, il m'a confirmé, il m'a dit « C'est positif. » Voilà. Alors lui, c'était bien, c'était vendredi soir, samedi matin, ça s'est passé. Mais j'ai un frère qui m'a appelé un samedi soir, c'était 18h30, 19h. Il dit, je sors de l'hôpital, des urgences, je ne peux plus marcher et en plus, je crois que j'ai le Covid. Est-ce que tu peux me remplacer? Bien sûr, à la retraite. À la retraite, mais disponible. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Pour moi, c'est une joie, un bonheur de me retrouver ici avec vous. Et je reconnais quelques visages, il y a des visages nouveaux. Ah, ce n'est pas un reproche, au contraire. Hein. Au contraire, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous voulez ouvrir avec moi le livre des Nombres? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous saluer de la part de l'église d'Arles, donc les Arlésiens et les Arlésiennes, et de leur pasteur, donc Emmanuel, eh bien, Insinga. Alors, ce n'est pas un Africain, c'est un Calabré, hein, il est italien, voilà. Mais en tout cas, on a, et Dieu nous a donné un homme formidable, un très beau ministère. L'Église grandit, et on commence à envisager de pousser les murs. C'est une bonne chose, hein. Bon, on a dit qu'on ferait, avant de pousser les murs, un deuxième culte au cas où, hein. Mais c'est bien, hein, les choses vont bien, elles vont de l'avant. Il faut être vigilant. Parce que c'est justement quand ça va bien que l'adversaire, lui, ça ne lui plaît pas. Et son rôle à lui, c'est d'essayer de détruire, de déchirer, de casser et de salir ce qui est beau. Amen. Je vois ici aussi, hein, ça se remplit. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous avez trouvé le livre des Nombres, chapitre 27, verset 1er? Nombre 27, verset 1er, voici ce que nous lisons. Les filles de Tselophshath, pardon, fils d'Épher, de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Amen. Alors, ce ne sont pas seulement des hommes que la Bible nous présente comme justement eh bien, héros de la foi. Il y a aussi des femmes. Et c'est là que les femmes doivent dire « Amen !» Voilà, les hommes aussi. Hein, vous le dites aussi ?« Amen !» Ça ne vous gêne pas, non? Eh oui. Alors, l'apôtre Paul nous dit qu'en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Ainsi, il est possible eh bien, pour une femme de devenir aussi un soldat de la croix. Ou si vous préférez, un vainqueur en Christ, comme n'importe quel homme. Vous dites encore Amen. Voilà. Alors dans l'Écriture, il n'y a pas seulement Moïse, Daniel, David, Paul et les autres, hein, pour ne prendre que ces noms. Il y a aussi Ruth, il y a aussi Déborah, et il y a Marie. Et puis il y a également Dorcas. Elles ont été des modèles de foi. Amen. Et il nous faudrait, nous aussi, hommes, hein, regarder un petit peu à ce que ces femmes ont vécu, à ce qu'elles ont fait vivre, hein, une délivrance pour certaines dans le peuple de Dieu. Alors, dans ce texte de Nombre 27, Nous sommes en présence des cinq filles de Tselophsad. Cette histoire se déroule durant le voyage dans le désert entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Canaan. Nous sommes dans les plaines de Moab et Jéricho se trouve de l'autre côté du Jourdain. Le dénombrement vient d'être fait pour procéder justement au partage du pays. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Il est intéressant de noter que ces gens avaient parfaitement confiance que Dieu, justement, leur donnait le pays de Canaan. Ils n'ont pas encore mis un pied. Ils sont de l'autre côté du Jourdain. Mais Dieu nous a donné ce pays. C'est à nous, c'est ma terre. C'est notre terre. Amen. C'est pour nous. Avant même d'y entrer, ils ont déjà procédé au partage du pays entre les tribus. N'y a-t-il pas là un exemple de foi? Mais oui, il y a là un exemple formidable de foi, tout simplement. Alors c'est pendant le partage des terres que les cinq filles de Tselophsad se présentèrent à Moïse. Et là, nous apprenons que leur père est mort dans le désert. Aucune mention de leur mère. Selon toute probabilité, ces cinq filles sont orphelines depuis la mort de leur père. Ouais. Alors c'est pour ça, sans doute, qu'elles craignent justement de perdre l'héritage qui devrait leur revenir. D'ailleurs, à cette époque, seuls les fils héritaient des terres, les terres de leur père, après la mort de celui-ci. On a suggéré aussi que d'après les noms de ces cinq filles, c'était une famille pieuse. En effet, chaque nom se termine par la syllabe, « A ». Toutes. Ça, souvent, c'est une contraction du nom de Dieu, bien sûr. Certains noms se terminent par « L ». Par exemple, Samuel, Daniel, Joël. Votre pasteur aussi, Joël. Alors, est-ce que ce serait là un signe de la spiritualité de cette famille? Certainement. En tout cas, l'idée dominante de ce passage, c'est la foi. Amen. La foi. La foi, comme dans tous les âges, a toujours été la clé pour obtenir la bénédiction, pour obtenir la faveur de Dieu, pour être béni par le Seigneur. Que ce soit au 1er siècle ou au 21e siècle, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose pour vous. C'est croire que Dieu, justement, a promis de faire quelque chose et qu'il ira jusqu'au bout. Amen. C'est important. Quand nous voyons toutes les valeurs être mises de côté, être déplacées, que les bornes sans cesse sont déplacées, c'est bon de savoir que Dieu nous dit des choses et avec certitude, il les accomplira. C'est-à-dire qu'il ira jusqu'au bout. Alors les circonstances semblent vouloir dire que vous allez, par exemple, tout perdre. Mais vous vous refusez justement à cette alternative. Et vous dites qu'il y a Dieu qui est au-dessus de tout. Et puisque Dieu est au-dessus de tout, il va se passer quelque chose. Si Dieu m'a fait une promesse, je dois le croire. Je dois l'attendre. Et je dois mettre tout en route justement pour la recevoir, cette bénédiction. Pouvoir accomplir justement la promesse de Dieu. Alors si nous regardons de plus près cette histoire des cinq filles, nous allons découvrir qu'il y a plusieurs étapes. Et la première étape de la foi, c'est tout simplement la détermination. Est-ce que nous sommes nous aussi déterminés? Pour obtenir de la part de Dieu, il faut qu'il y ait une détermination. Oui, Dieu me l'a dit. Ouais, mais tu as vu dans quelle situation tu es. Tu as vu les circonstances et tu crois que Dieu peut encore faire quelque chose là, à ce niveau-là? Oui. Oui, je le crois. J'ai confiance en lui. Amen. Ces filles avaient un problème. C'est la perte possible de leur héritage. Faisant partie d'une tribu d'Israël, cette famille avait normalement la promesse d'un héritage dans le pays où coule le lait et le miel. Ils allaient y entrer. Et bien des fois, durant ce voyage, à travers le désert, elles ont dû anticiper ce que pouvait être justement leur portion dans le pays, justement, La terre, quel est leur revenir? Cette partie du pays, quelle était pour elle? À quoi devait ressembler également cet héritage? Elle devait en parler, vous savez, on s'entretient. Quand on a des projets, on les fait mûrir, déjà dans notre esprit, dans notre cœur. Alors ils ont dû se demander où est-ce qu'elles allaient être disposées, ce que Dieu leur avait réservé dans le pays de la promesse. Et bien sûr que leur imagination, sans doute, les faisait rêver. Est-ce que vous avez des rêves? Je ne vais pas faire comme Martin Luther King, j'ai fait un rêve. Mais c'est bon de rêver avec le Seigneur. Amen. De lui demander de remplir nos nuits, nos pensées pendant la nuit, de veiller sur nous. Alors parlons maintenant d'autre chose. Il semble qu'elles ont tout perdu. Et quand leur père est mort, il semble que l'héritage, voilà, il s'est volatilisé avec lui. On n'en parle plus. Ou on ne devrait plus en parler. Alors nous savons que ces histoires qui ont réellement eu lieu dans l'Ancien Testament sont quelque part des représentations qui vont illustrer des vérités pour nous aujourd'hui, pour notre pèlerinage spirituel. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors de même que ces Israélites devaient chercher à entrer dans le pays de Canaan, Dieu nous a placés devant nous un pays de la promesse. Amen. Il va falloir tous déménager, partir en Canaan, en terre promise. Non, pas du tout. Mais il y a des promesses formidables et extraordinaires. C'est par exemple la promesse de la puissance de Dieu dans nos vies. Comment vous considérez Dieu? Avec vos yeux humains, vos pensées humaines, votre intelligence, plus ou moins développée. Ou lorsque vous le voyez comme le Tout-Puissant. Parce que c'est le Tout-Puissant, l'Éternel. Amen. Il y a aussi promesse de bénédiction. Amen. Promesse de renouvellement et de fertilité. Alléluia. Dieu veut que je grandisse. Dieu veut que je m'étende. Dieu veut que j'aille plus loin. Il y a également une promesse d'atteindre la maturité en Christ. Alléluia. De devenir également le genre de personne que l'on désire ardemment. J'ai soif, Seigneur, de te ressembler de plus en plus. J'ai soif d'être utile dans ton œuvre. Eh bien oui, c'est possible. Parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. C'est trouver en nous également les ressources qui vont nous rendre capables d'affronter la vie. Et aujourd'hui, la vie n'est pas facile du tout. Pour vous, oui. C'est facile pour vous? Et vous? Je finis par vous, hein? Eh bien, je commence à le côté. Voilà. Mais c'est pas facile la vie aujourd'hui. On n'est pas exempt d'épreuves, de difficultés. Souvent, nous rencontrons l'opposition. Vendredi soir, je parlais de l'incompréhension quand on est incompris. La vie est lourde. C'est difficile. On est tout seul. Eh bien, tout ça, on peut justement l'affronter parce qu'il y a en nous celui qui est le Tout-Puissant, celui qui nous connaît si bien, celui qui nous aime, parce que Dieu nous aime. Amen. Et vous voyez, tout ça, ça signifie que c'est le pays de Canaan, avec toute son abondance. Il est pour nous. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui dira dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Voilà notre pays de Canaan. Alléluia. Pierre n'est pas en reste. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Sa divine puissance nous a donné quoi? Oh, une petite partie, une petite poussière. Non, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que Dieu a pourvu à tout ce qu'il nous faut pour aller et marcher en vainqueur, pour triompher. C'est ça notre pays de Canaan. C'est ça votre pays de Canaan. Est-ce que vous le réalisez? Votre Seigneur, votre Dieu, il est riche. Immensément riche. Tout est à lui. Alors faites-lui confiance. Amen. Il est important que nous soyons déterminés à posséder tout cela. Amen. Les promesses, elles sont pour nous. Alléluia. Elles sont pour toi, mon frère, ma soeur. Elles sont pour toi, mon ami aussi. Mais toi, il va falloir que tu fasses le pas de la foi. Que tu viennes, que tu reconnaisses Jésus comme ton sauveur personnel. Que tu acceptes de te reconnaître perdu pour ensuite être sauvé. Amen. Il est impératif que nous soyons déterminés parce que Dieu ne va pas nous imposer ses bénédictions. Eh oui. Certains s'imaginent que du moment qu'ils ont reçu Christ, tout va leur tomber dessus automatiquement, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. C'est pas du tout ça. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. J'en connais qui ont refusé la grâce de Dieu. Je me rappelle de ce médecin avec qui j'étais mis en contact et qui s'est retrouvé avec une maladie grave. Il a été obligé d'arrêter et puis allant le visiter parce que sa femme m'a amené son fils. Parce que lui avait dit, écoute, va à l'église évangélique là-bas, pour notre fils, ce sera bien. Et puis le visitant un jour avec sa femme qui m'a demandé de passer parce qu'on venait lui découvrir cette maladie grave. Eh bien, je l'écoute, je parle avec lui, et puis j'apprends que tout petit, il a été baigné dans les évangiles. Jusqu'à devenir grand, à devenir un homme de science, il était médecin. Hein, et voilà, je lui ai dit, mais ne croyez pas que Dieu peut faire quelque chose pour vous. Il m'a dit, oui, je le sais, mais je veux que ce soit la médecine. Vous croyez que Dieu est vivant? Mais oui. Vous croyez que Dieu est puissant? Oui. Vous croyez que Dieu a guéri des malades? Oui. Et vous? Je veux que ce soit la médecine qui me guérisse, qui réponde à mon problème. Oh. Vous voyez? C'est bien, il faut que tu amènes notre fils là-bas. Ça lui fera beaucoup de bien. C'est important pour lui. Donc il savait. Et en fait, il refusait. Vous n'en avez pas rencontré, vous aussi, comme ça? Eh oui. Alors, si vous ne voulez pas ce que Dieu veut vous donner, bien sûr qu'il ne vous l'imposera pas. Si vous ne prenez pas ce que Dieu vous offre, eh bien, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Combien c'est dommage. La foi est donc manifestée par de la détermination à vouloir ce que Dieu veut vous donner. Ce n'est pas compliqué. Hein? Comme quelqu'un qui se noie. Vous lui jetez une bouée, s'il ne la prend pas ou s'il ne la saisit pas, eh bien, il va couler au fond. Hein? Puis il va se perdre. Il va mourir. Il va se noyer. Est-ce que vous êtes prêt à saisir la bouée? Amen. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin, de dire « Seigneur, je vais faire comme cet homme de Dieu, espérant contre tout espérant, je vais croire parce que je veux recevoir. » Amen. La deuxième étape de la foi, c'est de continuer malgré le découragement. Eh oui. Alors, il semblerait qu'elles ont perdu tout espoir. Je reviens. Leur père est mort. Il n'y a pas d'enfant mâle pour hériter, donc terminus. Eh oui. Selon la coutume, dans tout le Moyen-Orient, seul un homme pouvait hériter d'une propriété. Il semble, bien sûr pour elle, que c'était une cause perdue. Mais finalement, je me dis qu'elles ont eu de l'intelligence spirituelle. Parce que vous allez voir les effets après. Après tout, cet héritage, c'est l'Éternel qui le donne. Ce n'est pas les hommes. C'est l'Éternel qui le donne. Cet héritage n'est pas fondé sur les mérites. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne. Amen. Donc, c'est par grâce. Comme pour nous. Qu'est-ce qu'une grâce? C'est une faveur imméritée. On ne mérite pas. Dieu nous a sauvés. pas parce que nous étions bons, bien, formidables, mais parce que nous étions des pécheurs, il nous a fait grâce. Amen. Alors Israël ne l'a pas mérité. D'ailleurs, c'est Dieu qui en a pris l'initiative du début jusqu'à la fin. Dieu n'a pas demandé à Israël de payer pour avoir la terre. Pas du tout. Puisque c'est Dieu qui offre et non les hommes. Et puisque justement, elles se sont retrouvées dans une situation où il n'y avait personne à part elles pour recevoir l'héritage, pour avoir le droit, humainement parlant, eh bien, à l'héritage. Pourquoi n'aurait-elle pas le droit, en tant que femme, de l'avoir? Pourquoi? Alors, elles sont allées voir les juges. Elles sont allées demander, hein? Moïse a consulté l'Éternel. L'Éternel a répondu. Je vous lis ce verset 7 du chapitre 27. L'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Elles ont raison. Ça a dû en faire cogiter plus d'un, hein? Elles ont raison. Oh. Et pour nous aujourd'hui, aux croyants de la Nouvelle Alliance, la promesse, elle est là. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, donc Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, Jésus, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? J'ai tout au nom de Jésus. Amen. C'est pour moi. Oh, pas que pour moi. Toi aussi, hein? Et c'est pour nous, eh oui. La troisième étape de la foi, tenir ferme, même si ça tarde. On est dans une société de consommation. On commande, même par Internet, ça va très vite. Le lendemain, c'est à la maison. Quand il n'y a pas de soucis d'aiguillage. Mais ça va très vite, eh oui. Alors c'est ici que la plupart nous échouons. Tenir quand ça tarde. Eh oui. Quand tout se présente bien, oh la foi c'est formidable. Elle est joyeuse. Mais quand le délai devient trop long, quand ça tarde à venir, alors il faut continuer. Je disais, espérant contre toute espérance, il a cru Abraham. Et il nous faut faire pareil. Alors je dis que c'est vrai, nous voulons tout, tout de suite. Et nous n'avons pas compris les délais de Dieu. Vous savez, Dieu ne viendra pas ni trop tard, ni trop tôt. Il viendra à l'heure H, au jour J. La seconde S, on va s'arrêter là. Mais il y en a un moment où il le faut. Si c'est trop tôt, c'est du gaspillage. On pourrait même revendiquer et dire, heureusement que j'étais là, Seigneur. Hein? Vous comprenez? Non, il viendra au moment où il le faut. Eh oui. Alors, après un certain temps, bien sûr, que le découragement peut s'installer. Et ces filles n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient quand elles sont venues à Moïse directement, tout de suite, non. Il ne leur a pas donné un héritage dans le pays, il leur a seulement donné une promesse d'un héritage dans le pays, c'est tout. Voilà. Elles ont dû attendre. 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 Que dire de Caleb? Vous ne croyez pas? Lui, il a été réglo du début à la fin. Mais il n'a pas perdu la promesse. Elle était toujours là. Et là. Il va les réclamer lui aussi. Hein. En tout cas, ils ont dû attendre longtemps. Il fallait traverser le Jourdain, il fallait s'emparer de Jéricho, et il fallait encore continuer de victoire en victoire. Et ça, sans se décourager. Et oui. Donc, Dieu, finalement, tout au long de leur parcours, avait bien des choses à leur enseigner. C'est un peu comme ça pour nous aussi. Des étapes, une autre étape, une autre encore, jusqu'à ce que nous puissions voir et tenir fermement ce que Dieu nous a promis. Ces filles ont dû franchir une barrière insurmontable également. C'est la quatrième étape de la foi. C'est qu'elles ont osé la différence. Personne avant elles n'avait fait cela. Pas facile de ne pas faire comme tout le monde et d'oser quelque part de se, allez, pas marginaliser, mais d'être différent des autres. Ces filles ont eu un courage extraordinaire et j'aimerais le voir avec vous. Regardez un petit peu. Nombre, chapitre 26, verset 51. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 601 730 hommes. Ça vous va ? Nombre 27, verset 2, nous dit que les filles de Tselophad s'approchèrent, se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Il y avait Moïse, il y avait les sacrificateurs, il y avait les princes et toute l'assemblée. Ça représente plus de 600 000 personnes. Il y a certainement les femmes et les enfants en plus, mais déjà, il y a 600 000 personnes qui ont les regards sur vous, qui vont vous entendre. Voilà devant qui se sont présentées ces cinq filles. Vous comprenez un peu ou pas ? Pas facile. Imaginez ces cinq filles qui n'ont jamais fait face à un tel auditoire. Venant devant plus de 600 000 personnes, sans compter également toutes les autres personnes présentes. Donc ces filles avaient donc une foi audacieuse. Elles étaient déterminées à avoir l'héritage que Dieu avait promis. Elles ont osé le faire savoir. Est-ce que vous le faites savoir à Dieu ? J'ai entendu des personnes, pasteur, c'est pas à peine que je demande, il sait le Seigneur. Ouais, mais il aime nous entendre, ouais, demander. Oui. Ben il sait de quoi je souffre. Ben oui, mais dis-lui. Demande-lui. Jésus n'a-t-il pas fait cela ? Est-ce qu'il était, comment dire, aveugle lui aussi ? Que veux-tu que je fasse pour toi, mes seigneurs, que je vois, que je recouvre la vue ? Vous comprenez ? Il aime nous entendre. Demander précisément ce que nous voulons, ce que nous avons besoin. Amen. Elles ont osé le faire savoir. Nous avons besoin, bien sûr, d'être semblables aujourd'hui, d'être des hommes, des femmes qui osent la différence, qui ne sont pas satisfaits, qui ne vont pas faire comme tout le monde, mais qui veulent toujours plus. Amen. C'est bon de vouloir toujours plus. Qui est gourmand ? Vas-y, dis-y. Oh, y a pas d'honte à être gourmand. Moi, je dis souvent, Seigneur, il m'a fait avec des papilles dégustatives très développées. Ou pas mal. Moi, je suis gourmand, moi aussi. Hein. Et j'ai toujours envie de plus. Amen. Nous devons oser. Mon frère, ma sœur, ose. Ne te gêne pas avec le Seigneur. Demande-moi et tu verras si je n'ouvrirai pas pour toi les écluses des cieux. Et tu vas te gêner, toi ? Non, c'est dommage. Amen. Oser la différence sur bien des choses également, sur la mesquinerie, le mensonge, la malhonnêteté, la sexualité, la culpe, le concubinage, l'impiété. Il faut ! Moi, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Ça ne marche pas avec moi. Écoute, je ne veux pas t'entendre parce que ça me fait mal. Donc, là, on fait la différence. Je me suis retrouvé, alors que j'étais pompier professionnel, je vivais en collectivité avec mes collègues et j'étais 24 heures avec eux. C'est ça, les gardes chez les pompiers. Eh bien, vous en entendez des choses. Et quand on vous demande un petit mensonge, vous dites quoi ? Un niette ? Non, ça ne marche pas. Eh bien, il n'y a que toi au téléphone. Eh bien, tu me fais remplacer. Que si ta femme m'appelle... Mais je ne dirais pas que tu es sur intervention alors que tu n'y es pas. Vous comprenez ? C'est des choses que l'on vit dans la société. Et on peut faire des compromis comme ça. Non, niette. J'ose, je fais la différence. Je dis ça ne marche pas. Eh oui. À l'exemple de Daniel également, qui a osé marcher à contre-courant. Vous voyez, toute la population alors, qui s'est prosternée, et Daniel et ses amis ne sont pas prosternés aussi. Lui, il a continué à se prosterner du bon côté, du côté de Dieu. Il a osé faire la différence. Alors, ce qui est fort avec ces filles, c'est qu'elles ont osé défier une tradition qui était incrustée en Israël. Il n'y avait aucune loi interdisant un héritage à une fille. Mais la coutume était là, et c'est contre cela qu'elles se sont élevées. Et la cinquième étape de la foi, elle est là, c'est qu'elle produit, elle va produire une réaction en chaîne. Vous êtes loin d'imaginer que ce que vous pouvez provoquer autour de vous, si vous avez la foi, cette foi saine, belle, qui défie l'adversaire. Amen. Non seulement ces filles ont obtenu un héritage pour elles-mêmes, mais c'est devenu un principe de base et une nouvelle loi en Israël. Nombre 27, verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël. Tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer l'héritage ou son héritage à sa fille. Ça n'existait pas avant. Et ça aurait continué longtemps. Ces cinq filles ont bien fait de se lever, vous ne croyez pas ? De faire la différence. Jésus dit dans Matthieu 17, verset 20, que la foi, même si elle n'est pas plus grande qu'un grain de moutarde, est suffisante pour accomplir ce qu'il faut, même déplacer des montagnes. Et pourquoi Jésus a-t-il choisi cette graine ? D'abord, parce qu'une graine de moutarde a deux qualités en elle-même. Premièrement, c'est une graine, une semence, une graine. Vous la mettez en terre, qu'est-ce qui se passe ? Elle germe, elle pousse, elle grandit, et quelquefois ça devient un arbre. Donc c'est une graine qui a la capacité de croître, de se développer. Et moi je vois l'image là. Plus vous exercez la foi, et plus vous aurez de la foi à exercer. Amen. Allez, exerce ta foi. Commence par les toutes petites choses. Puis tu verras, tu vas vivre des grandes, des magnifiques choses. Amen. Deuxièmement, c'est une graine de moutarde. Ça ne vous dit rien, ça ? C'est bon, la moutarde. Des fois, le menton est. Alors, est-ce qu'on vous a déjà appliqué sur votre peau un cataplasme à la moutarde ? En tout cas, il y a une réaction qui se produit, c'est-à-dire que la peau, là où on l'a appliquée, devient rouge comme une écrevisse. Et justement, la moutarde, elle produit une réaction. Et là aussi, cette image, elle est là. Ceux qui sont au contact de la foi sont incités à faire de même. Quand vous voyez que le frère ou la sœur, Dieu l'a béni, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites Alléluia, vous vous réjouissez et vous dites, et moi Seigneur ? Vous ne marchez pas comme ça, vous ? Oh, c'est une saine jalousie, ça. Dire, Seigneur, moi aussi, je veux goûter à ces choses-là. Baptisé dans le Saint-Esprit, oh, Seigneur. Moi, au début, je n'avais pas compris. Seigneur, c'est pour être comme eux. Mais Seigneur, il m'a dit, non, ce n'est pas pour être comme eux. Il me l'a montré, après, j'étais rempli du Saint-Esprit. Mais c'est pour que tu sois à mon service. Amen. Je te donnais des choses à toi qu'eux n'ont pas. Et eux, je leur donne des choses que tu n'auras pas toi. Mais toi, moi, je veux te remplir. Amen. Et c'est la même chose pour chacun. En tout cas, ce qui est considérable au sujet de cette foi, ou de cette loi, pardon, qui a été promulguée en Israël, grâce à ses cinq filles, c'est que des siècles plus tard, ça va rendre possible à Jésus, eh bien, la possibilité d'hériter du trône de David par sa mère Marie. Eh oui. Vous savez que les gens croient que Jésus était fils de Joseph. On sait que Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle a été visitée par l'Esprit de Dieu. Alors, ça lui donnait le droit d'hériter au trône. Quoique justement, eh bien, il ne soit pas l'actuel fils de Joseph. Mais c'est ce droit, et puis si ce droit a été contesté, pardon, elle a quand même droit au trône il a quand même droit au trône d'Israël par Marie, sa mère. Parce que selon la tradition, Marie était une fille unique de ses parents. Elle était descendante d'un autre fils de David, Nathan. Et par lui, elle avait aussi le droit au trône de David. Mais ce n'est qu'en vertu de cette loi en Israël qu'une fille pouvait hériter de son père. Vous voyez un petit peu ? Eh oui. Waouh ! Eh bien, savez-vous que Dieu est capable de faire avec la foi des choses extraordinaires ? Est-ce que tu réalises que ta foi aujourd'hui est capable de bouleverser les choses pour plus tard ? Regardez Abraham. Aujourd'hui, nous sommes des millions et des millions à bénéficier des actes de foi, dont certains peuvent sembler sans importance au moment où on les accomplit, où il les accomplissait lui aussi. Mais ça peut avoir un impact extraordinaire. Alors, Dieu nous appelle à une vie de foi. Ne nous focalisons pas sur les choses trop grandes, parce que d'abord c'est ça, on a... Non. Ce sont par les petites choses que commence le développement de la foi. Amen. Les petites choses, c'est celles qui vont changer le monde. Amen. Ça commence par là. On dit que les petits ruisseaux, ils font les grandes rivières. Eh bien, puisse le Seigneur nous remplir de foi, nous aide à faire la différence. Amen. Nous aide également à persévérer, à être déterminés. Alléluia. Et malgré le découragement, malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré les contretemps, eh bien, de continuer. Ça aussi, c'est de la détermination. Amen. Si ça tarde, allez, regarde devant. Repasse dans ton esprit. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Amen. Il y a ces corbeaux-là qui veulent m'enlever ces choses. Non, non. Laisse. Le Seigneur te l'a promis. Amen. Tu réalises ce matin qu'il y a encore bien des choses que tu dois vivre parce que tu n'es pas encore arrivé. Elles ne sont pas encore arrivées. Donc, il y a encore des tas de bénédictions qui nous attendent. Pas arrivé au bout du voyage, hein? Peut-être on n'est encore pas rentré dans certaines choses. Eux, n'étaient pas rentrés encore dans le pays de la promesse. Ils y allaient. Et nous, c'est pareil. Nous y allons. Et tant que le Seigneur ne sera pas revenu, bien, il faudra continuer à aller de l'avant, à faire des progrès, à grandir, à devenir des hommes et des femmes matures. Amen. La foi. C'est lui qui nous la communique. Amen. Et tu vas pouvoir faire comme Abraham, espérant contre toute espérance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci pour ta parole. Merci, je le crois, d'avoir parlé, Seigneur, ce matin, d'avoir fait du bien. Merci de fortifier, Seigneur, chacun, chacune. Merci également de donner peut-être à l'Esprit, Seigneur, tout simplement ceci. J'ai misé sur toi. Et je veux que tu puisses toi-même aller de l'avant. Il y a en toi une valeur que Dieu a déposée. Et ce matin, il te dit que oui, cette valeur-là, il veut la faire prospérer, la faire grandir. C'est comme les talents, les dons. N'enterre pas, mais fais-le valoir. Fais-le prospérer. Mets ta foi en action et tu verras la gloire de ton Dieu. Tu verras sa puissance à l'œuvre. Persévère. Peut-être quelqu'un est dans le doute. Eh bien, ce matin, ne doute pas. Dieu est là pour te rappeler qu'il est le Tout-Puissant. Il peut tout. Il peut transformer les situations. Il peut inverser le cours des choses. Il est le Tout-Puissant. Fais-lui confiance. Amen.